Chapitre 4. Deux bâtisses des faubourgs avaient brûlé. Le reste de la bourgade était poussiéreux, mais intact. Ils dépassèrent une écurie de louages abandonnée à main gauche, un bâtiment, un ancien marché, à main droite, puis ils se retrouvèrent dans la ville proprement dite, telle qu'elle était. Une douzaine, peut-être, d'édifices branlants flanquaient la rue. Des allées couraient parmi certains d'entre eux. L'autre route, une piste boueuse en grande partie envahie par l'herbe, reliait le nord-est au sud-ouest. Susanna considéra l'embranchement qui partait vers le nord-est et pensa « Il y avait jadis des péniches sur le fleuve. Et quelque part au bout de cette route, un appontement, sans doute une autre petite ville bâtie à la diable, surtout composée de saloons et de bicoques. » C'était le dernier point de négoce avant que les péniches ne pénètrent dans la cité. Les chariots passaient par là pour y entrer, puis en repartir. C'était il y a combien de temps? Elle l'ignorait, mais fort longtemps à en juger par l'aspect des lieux. Quelque part, un gond rouillé faisait entendre son grincement monotone. Ailleurs encore, une persienne claquait, solitaire au gré du vent venu de la plaine. Des barres destinées à attacher les chevaux, pour la plupart cassées, longeaient la façade des bâtiments. Il y avait eu jadis des trottoirs en planches, mais de celles-ci, il n'en restait guère, et de l'herbe poussait dans les trous où elles avaient été posées. Les enseignes étaient délavées. Certaines, toutefois, étaient encore lisibles, écrites dans un anglais abattardi qui était, supposait-elle, ce que Roland appelait le bas-parler. « Aliments et grains », disait l'une. Et Susanna songea que cela signifiait peut-être « fourrage et grains ». Sur le fronton rapporté de l'immeuble voisin, au-dessus d'un dessin grossier représentant un bison des plaines couché dans l'herbe, on déchiffrait les mots « repos, repas, boisson ». Sous l'enseigne, des portes battantes pendaient de guingois, bougeant légèrement sous l'effet de la brise. « Est-ce un saloon ?» Susanna ne savait pas au juste pourquoi elle chuchotait. Elle savait seulement qu'elle n'aurait pu parler d'un ton de voix normal. C'eût été comme jouer Clinch Mountain Breakdown sur un banjo à un enterrement. C'en était un, confirma Roland. Il ne chuchotait pas, mais sa voix était basse et pensive. Jake cheminait au coude à coude, regardant autour de lui avec nervosité. Derrière eux, Otte avait réduit son écart à 10 mètres. Il trottait rapidement, la tête oscillant d'un côté et de l'autre comme un pendule, tandis qu'il examinait les immeubles. C'est alors que Susanna eut le sentiment d'être épié. Exactement ainsi que Roland l'avait dit, l'impression que l'ombre avait remplacé le soleil. « Il y a des gens, n'est-ce pas ? » souffla-t-elle. Roland hocha le menton. Si, à l'angle nord-est de l'intersection des routes, la jeune femme vit un autre bâtiment, dont elle comprit l'enseigne « auberge », disait-elle, et « lit ». À l'exception d'une église au clocher pentu, c'était avec ses 2 étages le plus haut édifice de la ville. Susanna leva les yeux et aperçut une tache blanche, un visage, certainement, qui s'éloigna d'une des fenêtres sans vitre. Soudain, elle eut envie de s'en aller d'ici. Roland, cependant, leur imposait une cadence lente, mesurée, et elle pensa en deviner la raison. Hâter l'allure aurait pu faire croire aux observateurs qu'ils avaient peur et constituerait des proies faciles. N'empêche. Au croisement, les routes s'évasaient, formant une place qu'avaient envahie les herbes folles. Au centre se dressait un poteau de pierre érodée. Au-dessus, une boîte métallique pendait au bout d'un câble rouillé et flasque. Roland, avec Jake à ses côtés, se dirigea droit dessus. Eddie poussa le fauteuil de Susanna à leur suite. De l'herbe froufroutait dans ses rayons et le vent chatouillait la joue de la jeune femme d'une mèche de cheveux. Plus loin dans la rue, le volet claquait et le gond grinçait. Susanna frissonna et repoussa la mèche.
« J'aimerais qu'il se mène le train, » dit Eddie à voix basse. « Cet endroit me flanque la chair de poule. »
Susanna hocha la tête.
Elle examina la place et de nouveau parvint quasiment à se l'imaginer telle qu'elle devait être les jours de marché de jadis. Les trottoirs grouillant de monde, quelques citadines leurs paniers au bras, une majorité de charretiers et de mariniers grossièrement mis. Elle ne savait pas pourquoi elle était si sûre de la présence des péniches et des mariniers, mais le fait était. Les charrettes traversant la place, celles empruntant la route non pavée, soulevant d'étouffants nuages de poussière ocre, tandis que les conducteurs cravachaient leurs chevaux de trait, des bœufs, c'était des bœufs, pour les faire avancer. Elle voyait ces charrettes, des morceaux d'étoffe poussiéreuse noués autour de ballots de vêtements sur certaines, des pyramides de barriques goudronnées sur d'autres. Elle voyait les bœufs, attelés par deux et tirant l'attelage avec patience, remuant les oreilles à cause des mouches bourdonnant autour de leurs larges têtes. Elle entendait des voix et des rires et le piano du saloon martelant un air entraînant. Buffalo Girls ou Darling Kitty, peut-être. C'est comme si j'avais vécu ici dans une autre vie, songea-t-elle. Le pistolero se pencha sur l'inscription du poteau. Grand rue, lut-il, Lude 160 roues. Roues ? Répéta Jake. Une ancienne mesure métrique. As-tu déjà entendu parler de Lude ? Interrogea Heidi. Peut-être, quand j'étais tout petit. Ça rime avec rude. C'est peut-être de mauvais augure. Jake examinait la face orientale du poteau. Route du fleuve, drôle de caractère, mais c'est ce qui est écrit. Roland scruta le côté du poteau tourné vers l'ouest. Jimtown, 40 roues. N'est-ce pas la ville natale de Wayne Newton ? Roland. Le pistolero lui jeta un regard vide d'expression. J'ai fait aussi bien de fermer ma grande gueule, dit Eddie en roulant les yeux. Alors, le sud-ouest de la place se dressait le seul édifice en pierre de la cité, un cube trapu et poussiéreux percé de fenêtres aux barreaux rouillés. Prison du comté doublée d'un tribunal, pensa Susanna. Elle en avait vu de semblables dans le sud. En ajoutant devant quelques places de parking en biais, on aurait été infoutu de faire la différence. Un barbouillé à la peinture jaune passé souillait la façade. Elle arriva à le déchiffrer et, sans en comprendre le sens, elle eut plus que jamais envie de quitter la ville. Mort aux ados. Roland ? Il se tourna vers elle et elle lui montra du doigt le graffiti. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il lut, secoua la tête. Je ne sais pas. Susanna jeta un nouveau coup d'œil alentour. La place à présent semblait plus petite et les édifices donnaient l'impression de tomber sur eux. On peut s'en aller ? Bientôt. Roland se pencha et préleva un fragment de pavé au revêtement de la rue. Il le fit pensivement sauter dans sa main gauche tandis qu'il regardait la boîte métallique suspendue au-dessus du poteau. Il leva le bras. Susanna comprit avec une seconde de retard ce qu'il avait l'intention de faire. « Non, Roland ! » cria-t-elle. Elle se ratatina en entendant sa voix horrifiée. Sans lui prêter attention, le pistolero visa le haut du poteau. Ses gestes n'avaient en rien perdu de leur précision, et le caillou vint frapper le centre de la boîte qui rendit un bruit métallique et creux. Un mécanisme d'horlogerie se mit en branle à l'intérieur. Et un drapeau vert rouillé se déploya hors d'une fente latérale. Lorsqu'il se fut mis en place, une cloche carillonna. Les mots « Passé piéton » écrits en grosses lettres noires apparurent sur le bord du drapeau.
« Bordel de merde !» s'écria Eddie. « C'est un feu de signalisation qui remonte aux années folles. J'ai vu le même dans les films de Charlot. Si tu le canardes une nouvelle fois, tu crois qu'il affichera « Attendez piéton » ?»
« Nous avons de la compagnie, » dit tranquillement Roland, qui, de l'index, désigna le bâtiment que Susanna supposait être le tribunal. Un homme et une femme venaient d'en sortir et descendaient les degrés de pierre.
« Tu as décroché la timbale, Roland, » pensa Susanna. « Ils sont plus vieux que Mathusalem. »
L'homme était habillé d'une salopette et coiffé d'un large sombrero de paille.
La femme étreignait d'une main l'épaule nue et hâlée de son compagnon. Elle portait des vêtements tricotés mains et un chapeau cabriolet. À mesure qu'il s'approchait du poteau, Susanna comprit que la femme était aveugle et que l'accident qui lui avait coûté la vue avait dû être d'une rare horreur. À la place des yeux, il y avait désormais deux cavités peu profondes emplies de tissus cicatriciels. La femme semblait tout ensemble terrifiée et embarrassée.
« Sens des écumeurs, si !»
s'écria-t-elle d'une voix fêlée, chevrotante.
« Tu vas nous faire tuer, je gage !»«
Tais-toi !»« Merci !» répondit l'homme. Comme la femme, il s'exprimait avec un fort accent que Susanna avait peine à comprendre.
« Non, ceux-là ne sont pas les écumeurs. Il y a un ado avec eux, je te l'ai dit. On n'a jamais vu d'écumeurs voyager avec un ado. »
Aveugle ou pas, la femme tenta de s'éloigner de lui. Il jura et la saisit par le bras.
« Ça suffit, merci. Ça suffit, je te dis. Tu vas tomber et te blesser, bon sang. »
« Nous ne vous voulons aucun mal !»
cria le pistolero, se servant du haut-parler. Les yeux de l'homme brillèrent d'incrédulité. La femme se retourna, tendant son visage aveugle dans leur direction.
« Un pistolero !»
s'exclama l'homme d'une voix que l'excitation faisait trembler.
« Par Dieu, je le savais, je le savais !»
Il se mit à courir vers eux à travers la place, tirant la femme à sa suite. Celle-ci trébuchait misérablement et Susanna attendit le moment inévitable où elle allait choir. Mais ce fut l'homme qui tomba d'abord, se recevant lourdement sur les genoux, et la femme s'étala de tout son long à côté de lui, sur les pavés de la Grand-Route.